Donc on se retrouve avec Hervé Fougeron pour parler de l'affaire Dorgère. Où en étions-nous, Monsieur Fougeron ?
Eh bien, nous en étions au 4 janvier 1798, ou plutôt au 5 janvier au matin, puisque le charretier de Milloir arrive, accru sur son cheval, à Villeprévost, domicile donc d'amant François Fougeron, pour lui dire « Monsieur le juge, venez, c'est terrible, on a été attaqué hier soir, le père Fousset est au plus mal, venez vite ». Et mon ancêtre donc fait atteler sa voiture et se rend immédiatement à Milloir où il voit le citoyen Fousset sur son lit, les jambes horriblement brûlées, qui lui raconte que la veille au soir, il était dans la grande salle en train de deviser avec son fils et les domestiques, il était veuf, lorsqu'ils entendent des grands coups qui sont frappés au portail de la cour. Et, comme ils le disent, à la bombarde, les bandits, plus de 20 bandits, se précipitent dans la cour et dans la salle. Les occupants n'ont pas le temps de se cacher. Ils attrapent le père Fousset, le ligotent sur une chaise, poussent tous les autres dans la cave, referment la trappe et roulent deux barriques par-dessus pour être tranquilles. Et bien le père Fousset, il lui enlève donc ses chausses et ses sabots et commence à lui pousser les pieds au milieu du brasier. Et comme il ne veut rien dire, il y en a un qui sort la pointe de son couteau et qui lui pique la plante des pieds. Et un autre sort une bouteille de gnôle et lui arrose les pieds pour que ça grille encore plus.
Voilà.
Fousset refuse de parler, leur indique où il gagne où il garde un tout petit peu d'argent, mais très vite tombe dans les pommes devant la douleur. Les bandits restent vraisemblablement une heure ou deux, partent en s'emparant comme à chaque fois de linge et de vaisselle. Et on imagine que les pieds de Fousset étaient liés avec une ficelle, et que celle-ci a brûlé, et que ça lui a permis de défaire ses liens et de se traîner dans des souffrances épouvantables jusqu'à portée de voix de la maison d'à côté pour crier au secours. Une bonne le découvre, les gens sortent de la maison, le ramènent chez lui, délivrent tous les habitants de la ferme qui étaient toujours dans la cave, et c'est ainsi que le charretier peut venir prévenir le juge de paix. Et le juge, très vite, interrompt son interrogatoire avec Fousset en disant qu'il voit bien qu'il est tellement fatigué et épuisé que ce n'est pas la peine d'en rajouter.
Il est mort quelques jours après, je crois.
Oui, il est mort huit jours après. Et là, alors, le juge de paix demande à Vasseur, donc, qui avait été nommé quelque temps avant, eh bien, de commencer son enquête. Et Vasseur passera 15 jours sans rentrer chez lui à Jeanville, de ferme en ferme et de maison en maison, à recueillir des descriptions, des témoignages sur tout ce qui s'est passé, non seulement le soir du 4 janvier, mais les semaines précédentes. Et il recueille ainsi beaucoup d'informations. Il rentre en passant par Villeprévost, raconte ça au juge, qui le félicite et lui dit qu'il faut ouvrir l'œil maintenant. Le 29 janvier, à Chandoux, une grosse ferme à 2 km à vol d'oiseau de Villeprévost, à peine, le berger voit passer un homme et une femme qui ne sont pas de la commune. Et il se dit, tiens, c'est bizarre. Il leur fait un vaccin, les autres répondent en grommelant quelque chose, et le berger se dit, ceux-là, ils sont quand même un peu bizarre, et on les suit, on les signale tout au long du chemin jusqu'à ce qu'ils rentrent dans une ferme à Outrouville, près de Jeanville. Ils rentrent dans la ferme du citoyen Pinguet. Immédiatement, on prévient Vasseur, qui arrive flanqué de deux solides gaillards gendarmes. Il ouvre le portillon de la grange et voit une femme en train de nourrir un enfant qu'elle portait dans les bras. Elle lui demande ce qu'elle fait. Alors elle raconte qu'elle est lingère, bien sûr, qu'elle passe de maison en maison. Et Vasseur n'en croit pas un mot quand le portillon s'ouvre et le compagnon de la dame rentre. Alors, évidemment, il s'attendait à tout, sauf à tomber sur trois gaillards avec des grands bicornes, avec des plumes blanches et des cocardes. Et là, il se dit que, fait comme un rat, il a probablement meilleur compte d'essayer de collaborer avec la justice et que ça lui vaudra peut-être la clémence du tribunal. Donc, comme on dit dans le milieu, il se met à table et il balance tout le monde. Donc, c'est lui qui explique qui est le chef, qui sont les lieutenants, le Rouge d'Honneau, comment est-ce qu'ils se préviennent les uns les autres, où sont leurs principaux repères, comment est-ce qu'ils se renseignent sur les lieux à attaquer, quels sont les lieux de recel, comment ils sont habillés, à quoi ils ressemblent, enfin bref. Donc là, à partir de là, Vasseur a toutes les cartes en main, et dès le début du mois de février, les arrestations commencent. Vers la mi-février, il monte un gros coup avec le renfort d'un peloton de hussards d'Orléans dans les bois du côté d'Autruy, en fait plus près de Pithiviers, semble-t-il. Ils montent une opération nocturne, ils savent que les bandits préparent un gros coup. Et de nuit, donc, ils enveloppent les pieds des chevaux dans des linges, et ils encerclent le bois et ils tombent sur une cinquantaine de malfrats qui sont là en train de ripailler tout en préparant leur coup.
Oui, parce que là, Vasseur, il a eu des indices sur ce qui allait se passer.
Il avait eu, bien sûr, des informations. Et dans la bande, il y a le beau François.
D'accord.
Le beau François qui est interrogé le lendemain par mon ancêtre et qui dit « Jamais de ma vie, je n'ai vu un homme aussi fort, puisque devant moi, il a ouvert à la force des poignets des fers d'un pouce carré. » Alors, même si c'était du métal à ferrer les ânes, il faut quand même avoir dans les poignets une certaine vigueur pour arriver à ouvrir un petit fer. Voilà. Donc, la bande, les arrestations se poursuivent jusqu'au mois de mai, où finalement, Vasseur n'a plus grand monde à se mettre sous la dent, si on peut dire. Et on constate en même temps que le calme revient dans les campagnes. D'accord. Et donc, on peut considérer que le terrain est débarrassé de la bande. Alors, au fur et à mesure des interrogatoires, le juge a pour mission de discerner si les personnages attrapés par Vasseur correspondent à tous les renseignements qu'il a pu obtenir par ailleurs. Donc, il doit poser des questions pour essayer de recouper. Et lorsque c'est le cas, eh bien, le prévenu monte dans une charrette et puis il est expédié à Chartres, dans l'une des quatre prisons, et où il attend pendant l'instruction du procès, il attend de passer devant le tribunal. Il y a une dizaine... Alors, entre janvier et mai, 310 personnes quand même sont arrêtées, amenés successivement, enfermés dans la cave, parce qu'Amand François n'avait pas de cellule, il n'y avait pas de salle de police, et les interrogatoires se passaient au domicile du juge. Une dizaine à peu près sont relâchés, parce que manifestement, il s'agissait d'erreurs.
Et 300 personnes, on peut supposer que la bande a été démantelée,
oui,
en fait.
Voilà, oui. Et de fait, à partir du mois de mai, il n'y a plus... Enfin, on ne parle plus d'exactions, de vols, enfin le calme revient.
Donc là l'histoire en fait est terminée, sauf que maintenant il va y avoir le procès.
Voilà, sauf que maintenant c'est la justice qui continue son travail. Il y a donc toute une instruction qui se déroule entre le mois de juin 98 et puis le mois de mars 1800. Donc ça met un petit peu plus, ça met deux ans.
D'accord.
Presque. Et là, l'instruction est terminée. Le procès, proprement dit, démarre au mois de juillet. Il est prononcé à la fin du mois de juillet. Le 8 septembre, le verdict est prononcé. Et le 4 octobre, les sanctions, on va revenir dessus, sont exécutées. Mais pendant tout ce temps, le beau François et tous ses comparses sont donc enfermés et il a eu le temps, avant de rentrer dans la prison, de s'apercevoir qu'au-dessus de la porte principale, il y avait une surélévation plus légère en colombage et torchis Et il se dit, si j'arrive à me faire interner dans ce bâtiment, je m'en sors. Comme il s'était déjà évadé du bagne une première fois.
C'est un malin, ce beau François. On comprend pourquoi c'était le chef.
Oui, hein. C'est pas pour rien que c'était le chef. Hein. Et donc, c'est une période où les conditions sanitaires dans les prisons sont absolument épouvantables. Ça alarme le directoire qui envoie un certain nombre de médecins en inspection. Quand il arrive à Chartres, le médecin est horrifié. Il tense le directeur de la prison et tous les surveillants. Et là, Beaufrançois a beau jeu de se faire porter pâle. On dit que pendant 15 jours, il a refusé de s'alimenter. Donc, effectivement, il dépérissait. Et il se fait transférer dans ce petit bâtiment au-dessus de la porte principale, qui était l'infirmerie. Au bout d'un certain temps, le médecin lui dit « tu vas mieux, tu vas retourner ». Il lui demande 48 heures de grâce. Et dans la nuit, avec un comparse, eh bien, ils font une corde avec les draps et les couvertures. Et ils s'évadent. Et depuis, on n'en a jamais, jamais, jamais entendu parler. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Voilà.
C'est passionnant cette histoire. On se dit que bon, il y a eu plusieurs ouvrages qui ont été rédigés sur le sujet. On pourrait même en faire un film.
Oui, absolument.
Pas.
Oui,
vous savez à qui il me fait penser ce beau François ?
Non.
On pourrait trouver comme acteur Gérard Depardieu.
Ah oui, très bien.
Peut-être plus maintenant, mais il y a eu une certaine époque où il aurait ressemblé,
je pense,
à la description que vous faisiez tout à l'heure.
Absolument.
Monsieur Fougeron, donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du château de Villeprévost, donc où se sont déroulés ces interrogatoires?
Oui, bien volontiers.
Il y a eu des représentations qui ont été données, mais maintenant il y a longtemps, c'était dans les années 90,
un
spectacle en fait qui avait été monté sur,
absolument,
sur le sujet.
Absolument. Ma mère qui aime beaucoup le théâtre, ma dernière sœur qui était régisseur de théâtre, aime beaucoup les spectacles et trouvait que le site se prêtait assez bien à des représentations en plein air. Donc elles ont monté une organisation assez importante avec une grosse association qui regroupait beaucoup de gens du pays et des alentours. Et durant 3 années, le soir, ils ont donné un spectacle en plein air qui était un très beau spectacle. Il s'appelait « Le Cavalier de Feu ». Et dont le thème, si on peut dire, était un conte, mais se rattachant au fait que le soir du 15 août, le soleil couchant apparaît, après avoir disparu, caché par les arbres du parc, il réapparaît tout d'un coup, sur le coup de 9 heures du soir, en plein dans l'axe de l'allée centrale, et que c'est donc, quand on ne le sait pas, qu'on ne s'y attend pas, c'est une surprise de voir le soleil apparaître, d'autant que ça dure 3 à 4 minutes, mais qu'il est absolument éblouissant.
D'accord.
Et donc elles avaient écrit et réalisé ce spectacle qui s'appelait « Le Cavalier de Feu ».
Ça n'a pas été filmé, ce spectacle ?
Non, ça n'a pas été spectacle, ça n'a pas été filmé, il y a eu quelques photos, on a toujours les bandes-sons, mais refaire ça, ça représente un très gros travail de préparation. Il y a des conditions de sécurité maintenant qui sont draconiennes, et ça représente un... Voilà.
Mais par contre, ce qu'on peut encore faire aujourd'hui, c'est visiter le château de Villeprévost.
Certainement. Villeprévost est ouvert à la visite tous les ans, du 1er juillet au 15 août. Le soir du 15 août, on ferme une fois que le soleil a disparu, vers 21h30. Et donc, sans aucun problème, si vous vous présentez devant la grille, il y a une sonnette et on vous ouvrira, on vous accueillera à bras ouverts et dans 99% des cas, c'est moi qui vous accompagnerai.
D'accord.
Pour vous guider dans tous les lieux. Voilà.
Eh bien, c'est très gentil, Monsieur Fougeron. On peut rappeler, pour les personnes intéressées, les quelques ouvrages donc, qui ont été écrits sur le sujet, dont un livre de notre ami Gérard Boutet, qu'on a déjà entendu ici sur les ondes de Radio Vague, donc un livre qui s'appelle « Les chauffeurs ». Et puis d'autres ouvrages qui ont été écrits, dont notamment le livre d'Alain Bouzy, qui est plus récent, celui-là, la loi de la guillotine. Voilà. C'est intéressant, pour, quand on est intéressé par le sujet, de lire les différents ouvrages et de voir comment le sujet a été traité par différents auteurs. Merci beaucoup, Monsieur Fougeron.
Mais ce fut un plaisir, c'est moi qui vous remercie.
Nous nous retrouverons le mois prochain pour aborder un nouveau sujet d'histoire locale que je ne vous dévoile pas aujourd'hui, ce sera la surprise. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt. Au revoir.